La prisonnière, chapitre 2, suite 2. Et qu'est devenu, ajouta-t-il en se tournant vers moi, votre jeune ami hébreu que nous voyons à Deauville? J'avais pensé que si cela vous faisait plaisir, on pourrait peut-être l'inviter un soir. En effet, M. de Charlus, se contentant de faire espionner sans vergogne les faits et les gestes de Morel par une agence policière, absolument comme un mari ou un amant, ne laissait pas de faire attention aux autres jeunes gens. La surveillance qu'il chargeait un vieux domestique de faire exercer par une agence sur Morel était si peu discrète que les valets de pied se croyaient filés et qu'une femme de chambre ne vivait plus, n'osait plus sortir dans la rue, croyant toujours avoir un policier à ses trousses. « Elle peut bien faire ce qu'elle veut, on irait perdre son temps et son argent à la pister, comme si sa conduite nous intéressait en quelque chose !» s'écriait ironiquement le vieux serviteur, car il était si passionnément attaché à son maître que, bien que ne partageant nullement les goûts du baron, il finissait, tant il mettait de chaleureuse ardeur à les servir, par en parler comme s'ils étaient siens. « C'est la crème des braves gens !» disait de ce vieux serviteur M. de Charlus, « car on n'apprécie jamais personne autant que ceux qui joignent à de grandes vertus, celle de les mettre sans compter à la disposition de novices. » C'était d'ailleurs des hommes seulement que M. de Charlus était capable d'éprouver de la jalousie en ce qui concernait Morel. Les femmes ne lui en inspiraient aucune. C'est d'ailleurs la règle presque générale pour les Charlus. L'amour de l'homme qu'ils aiment pour une femme est quelque chose d'autre, qui se passe dans une autre espèce animale. Le lion laisse les tigres tranquilles, ne les gêne pas et les rassure plutôt. Quelquefois, il est vrai, chez ceux qui font de l'inversion un sacerdoce, cet amour les dégoûte. Ils en veulent alors à leur ami de s'y être livrés, non comme d'une trahison, mais comme d'une déchéance. Un charlu, autre que n'était le baron, eût été indigné de voir Morel avec des relations avec une femme, comme il l'eût été de lire sur une affiche que lui, l'interprète de Bach et de Handel, allait jouer du Puccini. C'est d'ailleurs pour cela que les jeunes gens qui, par intérêt, condescendent à l'amour des charlus, leur affirment que les femmes ne leur inspirent que du dégoût, comme ils diraient aux médecins qu'ils ne prennent jamais d'alcool et n'aiment que l'eau de source. Mais M. de Charlus, sur ce point, s'écartait un peu de la règle habituelle. Admirant tout chez Morel, ses succès féminins ne lui portaient pas ombrage, lui causaient une même joie que ses succès au concert ou à l'écarté. « Mais, mon cher, vous savez, il fait des femmes !» disait-il d'un air de révélation, de scandale, peut-être d'envie, surtout d'admiration. « Il est extraordinaire !» ajoutait-il. « Partout, les putains les plus en vue n'ont Dieu que pour lui. On le remarque partout, aussi bien dans le métro qu'au théâtre. C'en est embêtant. Je ne peux pas aller avec lui au restaurant sans que le garçon lui apporte les billets doux d'au moins trois femmes. Et toujours des jolies encore. Du reste, ça n'est pas extraordinaire. Je le regardais hier. Je le comprends. » Il est devenu d'une beauté, il a l'air d'une espèce de Bronzino. Il est vraiment admirable. Mais si M. de Charlus aimait à montrer qu'il aimait Morel, il aimait à persuader les autres, peut-être à se persuader lui-même qu'il en était aimé. Il mettait à l'avoir tout le temps auprès de lui, et malgré le tort que ce petit jeune homme pouvait faire à la situation mondaine du baron, une sorte d'amour-propre. Car, et le cas est fréquent des hommes bien posés et snobs qui, par vanité, brisent toutes leurs relations pour être vus partout avec une maîtresse, demi-mondaine ou dame tarée, qu'on ne reçoit pas, et avec laquelle pourtant il leur semble flatteur d'être lié. Il était arrivé à ce point où l'amour-propre met toute sa persévérance à détruire les buts qu'il a atteints. Soit que, sous l'influence de l'amour, on trouve un prestige, qu'on est seul à percevoir, à des relations ostentatoires avec ce qu'on aime. Soit que, par le fléchissement des ambitions mondaines atteintes et la marée montante des curiosités ancillaires, d'autant plus absorbantes qu'elles sont plus platoniques, celles-ci n'eussent pas seulement atteint, mais dépassé le niveau où avaient peine à se maintenir les autres. Quant aux autres jeunes gens, M. de Charlus trouvait qu'à son goût pour eux, l'existence de Morel n'était pas un obstacle, et que même sa réputation éclatante de violoniste, ou sa notoriété naissante de compositeur et de journaliste, pourrait, dans certains cas, leur être un appât. Présentait-on au baron un jeune compositeur de tournure agréable, c'était dans les talents de Morel qu'il cherchait l'occasion de faire une politesse au nouveau venu. « Vous devriez, lui disait-il, m'apporter de vos compositions pour que Morel les joue au concert ou en tournée. Il y a si peu de musique agréable écrite pour le violon. C'est une aubaine que d'en trouver de nouvelles. Et les étrangers apprécient beaucoup cela. Même en province, il y a des petits cercles musicaux où on aime la musique avec une ferveur et une intelligence admirables. » Sans plus de sincérité, car tout cela ne servait que d'amorce, et il était rare que Morel se prêtât à des réalisations. Comme Bloch avait avoué qu'il était un peu poète, à ses heures, avait-il ajouté, avec le rire sarcastique dont il accompagnait une banalité quand il ne pouvait pas trouver une parole originale, M. de Charlus me dit « Dites donc à ce jeune israélite, puisqu'il fait des vers, qu'il devrait bien m'en apporter pour Morel. Pour un compositeur, c'est toujours l'écueil, trouver quelque chose de joli à mettre en musique. On pourrait même penser à un livret. Cela ne serait pas inintéressant et prendrait une certaine valeur à cause du mérite du poète, de ma protection, de tout un enchaînement de circonstances auxiliatrices, parmi lesquelles le talent de Morel tient la première place. Car il compose beaucoup maintenant, et il écrit aussi, et très joliment. Je vais vous en parler. Quant à son talent d'exécutant, là, vous savez qu'il est tout à fait un maître déjà. Vous allez voir ce soir comme ce gosse joue bien la musique de Vinteuil. Il me renverse. À son âge, avoir une compréhension pareille, tout en restant si gamin, si potache. Oh, ce n'est ce soir qu'une petite répétition. La grande machine doit avoir lieu dans quelques jours. Mais ce sera bien plus élégant aujourd'hui. Aussi, nous sommes ravis que vous soyez venus, dit-il, en employant ce « nous », sans doute parce que le roi dit « nous voulons ». À cause du magnifique programme, j'ai conseillé à Madame Verdurin d'avoir deux fêtes, l'une dans quelques jours, où elle aura toutes ses relations, l'autre ce soir, où la patronne est, comme on dit en termes de justice, désaisie. C'est moi qui ai fait les invitations, et j'ai convoqué quelques personnes d'un autre milieu, qui peuvent être utiles à Charlie, et qu'il sera agréable pour les Verdurins de connaître. N'est-ce pas? C'est très bien de faire jouer les choses les plus belles avec les plus grands artistes. Mais la manifestation reste étouffée comme dans du coton, si le public est composé de la mercière d'en face et de l'épicier du coin. Vous savez ce que je pense du niveau intellectuel des gens du monde. Mais ils peuvent jouer certains rôles assez importants, entre autres le rôle dévolu pour les événements publics à la presse et qui est d'être un organe de divulgation. Vous comprenez ce que je veux dire. J'ai par exemple invité ma belle-sœur Oriane. Il n'est pas certain qu'elle vienne, mais il est certain en revanche, si elle vient, qu'elle ne comprendra absolument rien. Mais on ne lui demande pas de comprendre, ce qui est au-dessus de ses moyens, mais de parler, ce qui est approprié admirablement, et dont elle ne se fait pas faute. Conséquence, dès demain, au lieu du silence de la mercière et de l'épicier, conversation animée chez les Mortemart, où Oriane raconte qu'elle a entendu des choses merveilleuses, qu'un certain Morel, etc. Rage indescriptible des personnes non conviées qui diront « Palamède avait sans doute jugé que nous étions indignes. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ces gens chez qui la chose se passait ?» Contrepartie aussi utile que les louanges d'Oriane, parce que le nom de Morel revient tout le temps et finit par se graver dans la mémoire, comme une leçon qu'on relit 10 fois de suite. Tout cela forme un enchaînement de circonstances qui peut avoir son prix pour l'artiste, pour la maîtresse de maison, servir en quelque sorte de mégaphone à une manifestation qui sera ainsi rendue audible à un public lointain. Vraiment, ça en vaut la peine. Vous verrez les projets qu'a fait Charlie. Et d'ailleurs, on lui a découvert un nouveau talent, mon cher. Il était comme un ange. Comme un ange, je vous dis. Monsieur de Charlus négligeait de dire que, depuis quelque temps, il faisait faire à Morel, comme ces grands seigneurs du XVIIe siècle qui dédaignaient de signer et même d'écrire leurs libelles, des petits entrefilets bassement calomniateurs et dirigés contre la comtesse Molé. Semblant déjà insolent à ceux qui les lisaient, combien était-il plus cruel pour la jeune femme, qui retrouvait, si adroitement glissée que personne d'autre qu'elle n'y voyait goutte, des passages de lettres d'elle, textuellement cités, mais pris dans un sens où il pouvait l'affoler comme la plus cruelle vengeance. La jeune femme en mourut. « Mais il se fait tous les jours à Paris, dirait Balzac, une sorte de journal parlé, plus terrible que l'autre. » On verra plus tard que cette presse verbale réduisit à néant la puissance d'un charlu devenu démodé, et, bien au-dessus de lui, érigea un Morel qui ne valait pas la millionième partie de son ancien protecteur. Du moins, cette mode intellectuelle est-elle naïve? Et croit-elle de bonne foi au néant d'un génial charlu, à l'incontestable autorité d'un stupide Morel? Le baron était moins innocent dans ses vengeances implacables. De là, sans doute, ce venin amer de la bouche, dont l'envahissement semblait donner aux joues la jaunisse quand il était en colère. « Vous qui connaissiez Bergotte, reprit monsieur de Charlus, j'avais jadis pensé que vous auriez pu peut-être, en lui rafraîchissant la mémoire au sujet des proses du Jouvenceau, collaborer en somme avec moi, m'aider à favoriser un talent double de musicien et d'écrivain, qui peut un jour acquérir le prestige de celui de Berlioz. Vous savez, les illustres ont souvent autre chose à penser. Ils sont adulés, ils ne s'intéressent guère qu'à eux-mêmes. Mais Bergotte, qui était vraiment simple et serviable, m'avait promis de faire passer aux Gaulois, ou je ne sais plus où, ces petites chroniques, moitié d'un humoriste et d'un musicien, qui sont maintenant très jolies. Et je suis vraiment très content que Charlie ajoute à son violon ce petit brin de plume d'ingres. Je sais bien que j'exagère facilement quand il s'agit de lui, comme toutes les vieilles mamans gâteaux du conservatoire. « Comment, mon cher, vous ne le saviez pas? Mais c'est que vous ne connaissez pas mon côté gobeur. Je fais le pied de grue pendant des heures à la porte des jurys d'examen. Je m'amuse comme une reine. » Quant à la prose de Charlie, Bergotte m'avait assuré que c'était vraiment tout à fait très bien. Monsieur de Charlus, qui l'avait connu depuis longtemps par Swann, était en effet allé voir Bergotte quelques jours avant sa mort, et lui demandait qu'il obtînt pour Morel d'écrire dans un journal des sortes de chroniques, en partie humoristiques, sur la musique. En y allant, M. de Charlus avait un certain remords, car, grand admirateur de Bergotte, il s'était rendu compte qu'il n'allait jamais le voir pour lui-même, mais pour, grâce à la considération mi-intellectuelle, mi-social que Bergotte avait pour lui, pour voir faire une grande politesse à Morel ou à tel autre de ses amis. Qu'il ne se servît plus du monde que pour cela ne choquait pas monsieur de Charlus. Mais de Bergotte, cela lui avait paru plus mal, parce qu'il sentait que Bergotte n'était pas utilitaire comme les gens du monde, et méritait mieux. Seulement, sa vie était prise, et il ne trouvait du temps de libre que quand il avait très envie d'une chose. Par exemple, si elle se rapportait à Morel. De plus, très intelligent, la conversation d'un homme intelligent lui était assez indifférente, surtout celle de Bergotte, qui était trop homme de lettres pour son goût, et d'un autre clan, ne se plaçant pas à son point de vue. Quant à Bergotte, il s'était rendu compte de cet utilitarisme des visites de M. de Charlus, mais ne lui en avait pas voulu, car il avait été toute sa vie incapable d'une bonté suivie. Mais désireux de faire plaisir, compréhensif, insensible au plaisir de donner une leçon. Quant au vice de M. de Charlus, il ne l'avait partagé à aucun degré, mais y avait trouvé plutôt un élément de couleur dans le personnage. Le « fas et nefas » pour un artiste, consistant non dans des exemples moraux, mais dans des souvenirs de Platon ou de Sodome. Mais vous, belle jeunesse, on ne vous voit guère qu'est Conti, vous n'en abusez pas. Je dis que je sortais surtout avec ma cousine. Voyez-vous ça, ça sort avec sa cousine, comme c'est pur, dit M. de Charlus à Brichot. Et s'adressant de nouveau à moi, mais nous ne vous demandons pas de compte sur ce que vous faites, mon enfant. Vous êtes libre de faire tout ce qui vous amuse. Nous regrettons seulement de ne pas y avoir de part. Du reste, vous avez très bon goût. Elle est charmante, votre cousine. Demandez à Brichot. Il en avait la tête farcie à Deauville. On la regrettera ce soir. Mais vous avez peut-être aussi bien fait de ne pas la mener. C'est admirable, la musique de Vinteuil. Mais j'ai appris qu'il devait y avoir la fille de l'auteur et son ami, qui sont deux personnes d'une terrible réputation. C'est toujours embêtant pour une jeune fille. Elles seront là, à moins que ces deux demoiselles n'aient pas pu venir, car elles devaient sans faute être tout l'après-midi à une répétition d'études que Madame Verdurin donnait tantôt, et où elle n'avait convié que les raseurs, la famille, les gens qu'il ne fallait pas avoir ce soir. Or, tout à l'heure, avant le dîner, Charlie nous a dit que ce que nous appelons les deux demoiselles Vinteuil, absolument attendues, n'étaient pas venues. Malgré l'affreuse douleur que j'avais à rapprocher subitement de l'effet, seule connue d'abord, la cause, enfin découverte, de l'envie d'Albertine de venir tantôt, la présence annoncée, mais que j'avais ignorée, de Mademoiselle Vinteuil et de son amie, je gardais la liberté d'esprit de noter que M. de Charlus, qui nous avait dit, il y avait quelques minutes, n'avoir pas vu Charlie depuis le matin, confessait étourdiment l'avoir vu avant dîner. Ma souffrance devenait visible. « Mais qu'est-ce que vous avez ?» me dit le baron. « Vous êtes vert. Allons, entrons, vous prenez froid, vous avez mauvaise mine. » Ce n'était pas mon doute relatif à la vertu d'Albertine que les paroles de M. de Charlus venaient d'éveiller en moi. Beaucoup d'autres y avaient déjà pénétré. À chaque nouveau doute, on croit que la mesure est comble, qu'on ne pourra pas le supporter. Puis on lui trouve tout de même de la place, et une fois qu'il est introduit dans notre milieu vital, il y entre en concurrence avec tant de désirs de croire, avec tant de raisons d'oublier, qu'assez vite on s'en accommode, on finit par ne plus s'occuper de lui. Il reste seulement comme une douleur à demi guérie, une simple menace de souffrir, et qui, envers du désir, du même ordre que lui, et comme lui devenu centre de nos pensées, irradie en elle, à des distances infinies, de subtiles tristesses, comme le désir des plaisirs d'une origine méconnaissable, partout où quelque chose peut s'associer à l'idée de celle que nous aimons. Mais la douleur se réveille quand un doute nouveau entre en nous. On a beau se dire presque tout de suite « Je m'arrangerai, il y aura un système pour ne pas souffrir, ça ne doit pas être vrai. » Pourtant, il y a eu un premier instant où on a souffert comme si on y croyait. Si nous n'avions que des membres, comme les jambes et les bras, la vie serait supportable. Malheureusement, nous portons en nous ce petit organe que nous appelons cœur, lequel est sujet à certaines maladies, au cours desquelles il est infiniment impressionnable pour tout ce qui concerne la vie d'une certaine personne, et où un mensonge, cette chose inoffensive et au milieu de laquelle nous vivons si allègrement, qu'il soit fait par nous-mêmes ou par les autres, venu de cette personne, donne à ce petit cœur, qu'on devrait pouvoir nous retirer chirurgicalement, des crises intolérables. Ne parlons pas du cerveau, car notre pensée a beau raisonner sans fin au cours de ces crises, elle ne les modifie pas plus que notre attention une rage de dents. Il est vrai que cette personne est coupable de nous avoir menti, car elle nous avait juré de nous dire toujours la vérité. Mais nous savons par nous-mêmes, pour les autres, ce que valent les serments. Et nous avons voulu y ajouter foi quand il venait d'elle, qui avait justement tout intérêt à nous mentir et n'a pas été choisie par nous, d'autre part, pour ses vertus. Il est vrai que plus tard, elle n'aurait presque plus besoin de nous mentir, justement quand le cœur sera devenu indifférent aux mensonges, parce que nous ne nous intéresserons plus à sa vie. Nous le savons. Et malgré cela, nous sacrifions volontiers la nôtre, soit que nous nous tuions pour cette personne, soit que nous nous fassions condamner à mort en l'assassinant, soit simplement que nous dépensions en quelques soirées pour elle toute notre fortune, ce qui nous oblige à nous tuer ensuite, parce que nous n'avons plus rien. D'ailleurs, si tranquille qu'on se croit quand on aime, on a toujours l'amour dans son cœur en état d'équilibre instable. Un rien suffit pour le mettre dans la position du bonheur. On rayonne, on couvre de tendresse, non point celle qu'on aime, mais ceux qui nous ont fait valoir à ses yeux, qui l'ont gardé contre toute tentation mauvaise. On se croit tranquille, et il suffit d'un mot. Gilberte ne viendra pas. Mademoiselle Vinteuil est invitée. Pour que tout le bonheur préparé vers lequel on s'élançait s'écroule, pour que le soleil se cache, pour que tourne la rose des vents et que se déchaîne la tempête intérieure, à laquelle, un jour, on ne sera plus capable de résister. Ce jour-là, le jour où le cœur est devenu si fragile, des amis qui nous admirent souffrent que de tels néants que certains êtres puissent nous faire du mal, nous faire mourir. Mais qui peuvent-ils? Si un poète est mourant d'une pneumonie infectieuse, se figure-t-on ses amis expliquant au pneumocoque que ce poète a du talent et qu'il devrait le laisser guérir? Le doute, en tant qu'il avait trait à Mademoiselle Vinteuil, n'était pas absolument nouveau. Mais, même dans cette mesure, ma jalousie de l'après-midi, excitée par Léa et ses amis, l'avait abolie. Une fois ce danger du Trocadéro écarté, j'avais éprouvé, j'avais cru avoir reconquis à jamais une paix complète. Mais ce qui était surtout nouveau pour moi, c'était une certaine promenade où André m'avait dit « Nous sommes allés ici et là, nous n'avons rencontré personne. » Et où, au contraire, Mademoiselle Vinteuil avait évidemment donné rendez-vous à Albertine chez Madame Verdurin. Maintenant, j'eusse laissé volontiers Albertine sortir seule, aller partout où elle voudrait, pourvu que j'eusse pu chambrer quelque part Mademoiselle Vinteuil et son amie, et être certain qu'Albertine ne les vit pas. C'est que la jalousie est généralement partielle, à localisations intermittentes, soit parce qu'elle est le prolongement douloureux d'une anxiété, qui est provoquée tantôt par une personne, tantôt par une autre, que notre ami pourrait aimer, soit par l'exiguïté de notre pensée, qui ne peut réaliser que ce qu'elle se représente, et laisse le reste dans un vague dont on ne peut relativement souffrir. Au moment où nous allions sonner à la porte de l'hôtel, nous fûmes rattrapés par Sagnette, qui nous apprit que la princesse Cherbatov était morte à 6 heures, et nous dit qu'il ne nous avait pas reconnus tout de suite. « Je vous envisageais pourtant depuis un moment, » nous dit-il d'une voix étouffée. « Est-ce pas curieux que j'aie hésité ? N'est-il pas curieux ? Lui eût semblé une faute, et il devenait, avec les formes anciennes du langage, d'une exaspérante familiarité. « Vous êtes pourtant gens qu'on peut avouer pour ses amis. » Sa mine grisâtre semblait éclairée par le reflet plombé d'un orage. Son essoufflement, qui ne se produisait, cet été encore, que quand M. Verdurin l'engueulait, était maintenant constant. « Je sais qu'une œuvre inédite de Vinteuil va être exécutée par d'excellents artistes, et singulièrement par Morel. » « Pourquoi singulièrement ?» demanda le baron, qui vit dans cet adverbe une critique. « Notre amie Sagnette, se hâta d'expliquer Brichot, qui joua le rôle d'interprète, parle volontiers, en excellent lettré qu'il est, le langage d'un temps où « singulièrement » équivaut à notre « tout particulièrement ». Comme nous entrions dans l'antichambre de Madame Verdurin, « Monsieur de Charlus me demanda si je travaillais, et comme je lui disais que non, mais que je m'intéressais beaucoup en ce moment aux vieux services d'argenterie et de porcelaine, il me dit que je ne pourrais pas en voir de plus beau que chez les Verdurin. Que d'ailleurs, j'avais pu les voir à la Raspelière, puisque, sous prétexte que les objets sont aussi des amis, ils faisaient la folie de tout emporter avec eux. Que ce serait moins commode de tout me sortir un jour de soirée, mais que pourtant, il demanderait qu'on me montrât ce que je voudrais. Je le priais de n'en rien faire. Monsieur de Charlus déboutonna son pardessus, ôta son chapeau, et je vis que le sommet de sa tête s'argentait maintenant par places. Mais tel un arbuste précieux, que non seulement l'automne colore, mais dont on protège certaines feuilles par des enveloppements d'ouate ou des applications de plâtre, M. de Charlus ne recevait de ses quelques cheveux blancs placés à sa cime qu'un bariolage de plus venant s'ajouter à ceux du visage. Et pourtant, même sous les couches d'expressions différentes, de fard et d'hypocrisie, qui le maquillaient si mal, le visage de M. de Charlus continuait à taire à presque tout le monde le secret qu'il me paraissait crier. J'étais presque gênée par ses yeux, où j'avais peur qu'il ne me surprît à le lire à livre ouvert, par sa voix qui me paraissait le répéter sur tous les tons, avec une inlassable indécence. Mais les secrets sont bien gardés par ces êtres, car tous ceux qui les approchent sont sourds et aveugles. Les personnes qui apprenaient la vérité par l'un ou l'autre, par les Verdurin par exemple, la croyaient, mais cependant seulement tant qu'elle ne connaissait pas M. de Charlus. Son visage, loin de répandre, dissipait les mauvais bruits. Car nous nous faisons de certaines entités une idée si grande que nous ne pourrions l'identifier avec les traits familiers d'une personne de connaissance. Et nous croirons difficilement au vice, comme nous ne croirons jamais au génie, d'une personne avec qui nous sommes encore allés la veille à l'opéra. Monsieur de Charlus était en train de donner son pardessus avec des recommandations d'habitué. Mais le valet de pied auquel il le tendait était un nouveau, tout jeune. Or, monsieur de Charlus perdait souvent maintenant ce qu'on appelle le nord et ne se rendait plus compte de ce qui se fait et ne se fait pas. Le louable désir qu'il avait, à Balbec, de montrer que certains sujets ne l'effrayaient pas, de ne pas avoir peur de déclarer à propos de quelqu'un « Il est joli garçon !» de dire en un mot les mêmes choses qu'aurait pu dire quelqu'un qui n'aurait pas été comme lui, il lui arrivait maintenant de traduire ce désir en disant, au contraire, des choses que n'aurait jamais pu dire quelqu'un qui n'aurait pas été comme lui, choses devant lesquelles son esprit était si constamment fixé qu'il en oubliait qu'elles ne font pas partie de la préoccupation habituelle de tout le monde. Aussi, regardant le nouveau valet de pied, il leva l'index en l'air d'un air menaçant et, croyant faire une excellente plaisanterie, « Vous, je vous défends de me faire de l'œil comme ça !» dit le baron, et se tournant vers Brichot, « Il a une figure drôlette, ce petit-là, il a un nez amusant. » Et complétant sa facétie, ou cédant à un désir, il rabattit son index horizontalement, hésita un instant, puis, ne pouvant plus se contenir, le poussa irrésistiblement droit au valet de pied et lui toucha le bout du nez en disant « Pif !» « Quelle drôle de boîte !» se dit le valet de pied qui demanda à ses camarades si le baron était farce ou marteau. « Ce sont des manières qu'il a comme ça, » lui répondit le maître d'hôtel, qui le croyait un peu piqué, un peu dingo. « Mais c'est un des amis de madame que j'ai toujours le mieux estimé. C'est un bon cœur. »« Est-ce que vous retournerez cette année à Incarville ?» me demanda Brichot. « Je crois que notre patronne a reloué la Raspelière, bien qu'elle ait eu maille à partir avec ses propriétaires. Mais tout cela n'est rien, ce sont nuages qui se dissipent. » ajouta-t-il du même ton optimiste que les journaux qui disent « Il y a eu des fautes commises, c'est entendu, mais qui ne commet des fautes ?» Or, je me rappelais dans quel état de souffrance j'avais quitté Balbec, et je ne désirais nullement y retourner. Je remettais toujours au lendemain mes projets avec Albertine. « Mais bien sûr qu'il y reviendra, nous le voulons, il nous est indispensable !» déclara M. de Charlus avec l'égoïsme autoritaire et incompréhensif de l'amabilité. À ce moment, M. Verdurin vint à notre rencontre. M. Verdurin, à qui nous fîmes nos condoléances pour la princesse Chebatoff, nous dit « Oui, je sais qu'elle est très mal. » « Mais non, elle est morte à 6 heures !» s'écria sa niette. « Vous, vous exagérez toujours !» dit brutalement à sa niette M. Verdurin, qui, la soirée n'étant pas décommandée, préférait l'hypothèse de la maladie, imitant ainsi sans le savoir le prince de Guermantes. Sa niette, non sans craindre d'avoir froid, car la porte extérieure s'ouvrait constamment, attendait avec résignation qu'on lui prît ses affaires. « Qu'est-ce que vous faites là, dans cette pose de chien couchant ?» lui demanda M. Verdurin. « J'attendais qu'une des personnes qui surveille aux vêtements puisse prendre mon par-dessus et me donner un numéro. « Qu'est-ce que vous dites ?» demanda d'un air sévère M. Verdurin. « Qui surveille aux vêtements ? Est-ce que vous devenez gâteux ? On dit... « Surveillez les vêtements, s'il vous faut apprendre le français comme aux gens qui ont eu une attaque. Surveillera quelque chose, elle a vraie forme !» murmura sa niette d'une voix entrecoupée. « L'abbé le batteux !»« Vous m'agacez, vous !» cria M. Verdurin d'une voix terrible. « Comme vous soufflez! Est-ce que vous venez de monter 6 étages ?» La grossièreté de M. Verdurin eut pour effet que les hommes du vestiaire firent passer d'autres personnes avant sa niette, et quand il voulut tendre ses affaires, lui répondirent « Chacun son tour, monsieur, ne soyez pas si pressé. » « Voilà des hommes d'ordre, voilà des compétences. Très bien, mes braves !» dit, avec un sourire de sympathie, M. Verdurin, afin de les encourager dans leur disposition à faire passer sa niette après tout le monde. « Venez, » dit-il, « cet animal-là veut nous faire prendre la mort dans son cher courant d'air. Nous allons nous chauffer un peu au salon. Surveiller aux vêtements, » reprit-il quand nous fûmes au salon. « Quel imbécile !»« Il donne dans la préciosité, ce n'est pas un mauvais garçon, » dit Brichot. « Je n'ai pas dit que c'était un mauvais garçon, j'ai dit que c'était un imbécile. » riposta avec aigreur M. Verdurin. Cependant, Mme Verdurin était en grande conférence avec Cottard et Ski. Morel venait de refuser, parce que M. de Charlus ne pouvait s'y rendre, une invitation chez des amis auxquels elle avait pourtant promis le concours du violoniste. La raison du refus de Morel de jouer à la soirée des amis des Verdurin, raison à laquelle nous allons tout à l'heure en voir s'ajouter de bien plus grave, avait pu prendre sa force grâce à une habitude propre, en général, aux milieux oisifs, mais tout particulièrement au petit noyau. Certes, si Madame Verdurin surprenait, entre un nouveau et un fidèle, un mot dit à mi-voix et pouvant faire supposer qu'ils se connaissaient ou avaient envie de se lier, alors, à vendredi chez les untels, ou « Venez à l'atelier le jour que vous voudrez, j'y suis toujours jusqu'à 5 heures, vous me ferez vraiment plaisir. » Agité, supposant au nouveau une situation qui pouvait faire de lui une recrue brillante pour le petit clan, la patronne, tout en faisant semblant de n'avoir rien entendu, et en conservant à son beau regard, cerné par l'habitude de Debussy plus que n'aurait fait celle de la cocaïne, l'air exténué que lui donnaient les seules ivresses de la musique, n'en roulait pas moins, sous son front magnifique, bombé par tant de quatuors et les migraines consécutives, des pensées qui n'étaient pas exclusivement polyphoniques, et, n'y tenant plus, ne pouvant plus attendre une seconde sa piqûre, elle se jetait sur les deux causeurs, les entraînait à part, et disait au nouveau en désignant le fidèle « Vous ne voulez pas venir dîner avec lui, samedi par exemple, ou bien le jour que vous voudrez, avec des gens gentils. N'en parlez pas trop fort, parce que je ne convoquerai pas toute cette tourbe. » Terme désignant pour 5 minutes le petit noyau, dédaigné momentanément pour le nouveau, en qui on mettait tant d'espérance. Mais ce besoin de s'engouer, de faire aussi des rapprochements, avait sa contrepartie. L'assiduité au mercredi faisait naître chez les Verdurin une disposition opposée. C'était le désir de brouiller, d'éloigner. Il avait été fortifié, rendu presque furieux par les mois passés à la Raspelière, où l'on se voyait du matin au soir. Monsieur Verdurin, si un génie est à prendre quelqu'un en faute, à tendre des toiles où il put passer à l'araignée sa compagne, quelques mouches innocentes. Faute de griefs, on inventait des ridicules. Dès qu'un fidèle était sorti une demi-heure, on se moquait de lui devant les autres. On feignait d'être surpris qu'ils n'eussent pas remarqué combien il avait toujours les dents sales, ou au contraire, qu'il les brossa par manie 20 fois par jour. Si l'un se permettait d'ouvrir la fenêtre, ce manque d'éducation faisait que le patron et la patronne échangeaient un regard révolté. Au bout d'un instant, Madame Verdurin demandait un châle, ce qui donnait le prétexte à Monsieur Verdurin de dire, d'un air furieux, « Mais non, je vais fermer la fenêtre. Je me demande qui est-ce qui s'est permis de l'ouvrir. » Devant le coupable, qui rougissait jusqu'aux oreilles. « On vous reprochait indirectement la quantité de vin qu'on avait bu. » « Ça ne vous fait pas mal? C'est bon pour un ouvrier !» Les promenades ensemble de deux fidèles, qui n'avaient pas préalablement demandé son autorisation à la patronne, avaient pour conséquence des commentaires infinis, si innocentes que fussent ces promenades. Celle de M. de Charlus avec Morel ne l'était pas. Seul le fait que le baron n'habitait pas la Raspelière, à cause de la vie de garnison de Morel, retarda le moment de la satiété, des dégoûts, des vomissements. Il était pourtant prêt à venir. Madame Verdurin était furieuse et décidée à éclairer Morel sur le rôle ridicule et odieux que lui faisait jouer M. de Charlus. « J'ajoute, » continua-t-elle. Madame Verdurin, quand elle se sentait devoir à quelqu'un une reconnaissance qui allait lui peser, et ne pouvait le tuer pour la peine, lui découvrait un défaut grave qui dispensait honnêtement de la lui témoigner. « J'ajoute qu'il se donne des airs chez moi qui ne me plaisent pas. » C'est qu'en effet, Madame Verdurin avait encore une raison plus grave que le lâchage de Morel à la soirée de ses amis d'en vouloir à M. de Charlus. Celui-ci, pénétré de l'honneur qu'il faisait à la patronne, en amenant qu'est Conti des gens qui, en effet, n'y seraient pas venus pour elle, avait, dès les premiers noms que Madame Verdurin avait proposés, comme ceux de personnes qu'on pourrait inviter, prononcé la plus catégorique exclusive sur un ton péremptoire où se mêlait à l'orgueil rancunier du grand seigneur Quinteux le dogmatisme de l'artiste expert en matière de fête, et qui retirerait sa pièce et refuserait son concours plutôt que de condescendre à des concessions qui, selon lui, compromettraient le résultat d'ensemble. Monsieur de Charlus n'avait donné son permis, en l'entourant de réserve, qu'à Saint-Ine, à l'égard duquel, pour ne pas s'encombrer de sa femme, Madame de Guermantes avait passé, d'une intimité quotidienne à une cessation complète des relations, mais que Monsieur de Charlus, le trouvant intelligent, voyait toujours. Certes, c'est dans un milieu bourgeois matiné de petite noblesse, où tout le monde est très riche seulement, et apparenté à une aristocratie que la grande aristocratie ne connaît pas, que Saint-Ine, jadis la fleur du milieu guermantes, était allé chercher fortune et, croyait-il, point d'appui. Mais Madame Verdurin, sachant les prétentions nobiliaires du milieu de la femme et ne se rendant pas compte de la situation du mari, car c'est ce qui est presque immédiatement au-dessus de nous qui nous donne l'impression de la hauteur, et non ce qui nous est presque invisible tant cela se perd dans le ciel, crut devoir justifier une invitation pour Saint-Ine en faisant valoir qu'il connaissait beaucoup de monde. Ayant épousé mademoiselle... L'ignorance dont cette assertion, exactement contraire à la réalité, témoignait chez Madame Verdurin, fit s'épanouir en un rire d'indulgent mépris et de large compréhension les lèvres peintes du baron. Il dédaigna de répondre directement. Mais comme il échafaudait volontiers, en matière mondaine, des théories où se retrouvaient la fertilité de son intelligence et la hauteur de son orgueil, avec la frivolité héréditaire de ses préoccupations, « Saint-Ine aurait dû me consulter avant de se marier, » dit-il. « Il y a une eugénique sociale, comme il y en a une physiologique, et j'en suis peut-être le seul docteur. » Le cas de Saint-Ine ne soulevait aucune discussion. Il était clair qu'en faisant le mariage qu'il a fait, il s'attachait un point mort et mettait sa flamme sous le boisseau. Sa vie sociale était finie. Je le lui aurais expliqué, et il m'aurait compris, car il est intelligent. Inversement, il y avait telle personne qui avait tout ce qu'il fallait pour avoir une situation élevée, dominante, universelle. Seulement... un terrible câble la retenait à terre. Je l'ai aidée, mis par pression, mis par force, à rompre la mare. Et maintenant elle a conquis, avec une joie triomphante, la liberté, la toute-puissance qu'elle me doit. Il a peut-être fallu un peu de volonté, mais quelle récompense elle a! On est ainsi soi-même quand on sait m'écouter, l'accoucheur de son destin. Il était trop évident que M. de Charlus n'avait pas su agir sur le sien. Agir est autre chose que parler, même avec éloquence, et que penser, même avec ingéniosité. Mais en ce qui me concerne, je vis en philosophe qui assiste avec curiosité aux réactions sociales que j'ai prédites, mais n'y aide pas. Aussi ai-je continué à fréquenter Saint-Ine, qui a toujours eu pour moi la déférence chaleureuse qui convenait. J'ai même dîné chez lui dans sa nouvelle demeure, où on s'assomme autant au milieu du plus grand luxe qu'on s'amusait jadis, quand, tirant le diable par la queue, il assemblait la meilleure compagnie dans un petit grenier. Vous pouvez donc l'inviter, j'autorise, mais je frappe de mon veto tous les autres noms que vous me proposez. Et vous me remercierez, car si je suis expert en faire de mariage, je ne le suis pas moins en matière de fête. Je sais les personnalités ascendantes qui soulèvent une réunion, lui donnent de l'essor, de la hauteur. Et je sais aussi le nom qui rejette à terre, qui fait tomber à plat. Ces exclusions de M. de Charlus n'étaient pas toujours fondées sur des ressentiments de toqué ou des raffinements d'artiste, mais sur des habiletés d'acteur. Quand il tenait sur quelqu'un, sur quelque chose, un couplet tout à fait réussi, il désirait le faire entendre au plus grand nombre de personnes possible. Mais en ayant soin de ne pas admettre, dans la seconde fournée, des invités de la première, qui eussent pu constater que le morceau n'avait pas changé. Il refaisait sa salle à nouveau, justement parce qu'il ne renouvelait pas son affiche. Et quand il tenait, dans la conversation, un succès, il eut au besoin organiser des tournées et donner des représentations en province. Quoi qu'il en fût des motifs variés de ses exclusions, celle de M. de Charlus ne froissait pas seulement Mme Verdurin, qui sentait atteinte son autorité de patronne. Elle lui causait encore un grand tort mondain, et cela pour deux raisons. La première est que M. de Charlus, plus susceptible encore que Jupien, se brouillait, sans qu'on sût même pourquoi, avec les personnes le mieux faites pour être de ses amis. Naturellement, une des premières punitions qu'on pouvait leur infliger était de ne pas les laisser inviter à une fête qu'ils donnaient chez les Verdurin. Or, ces parias étaient souvent des gens qui tiennent ce qu'on appelle le haut du pavé, mais qui, pour M. de Charlus, avaient cessé de le tenir du jour qu'il avait été brouillé avec eux. Car son imagination, autant qu'à supposer des torts aux gens pour se brouiller avec eux, était ingénieuse à leur ôter toute importance dès qu'ils n'étaient plus ses amis. Si, par exemple, le coupable était un homme d'une famille extrêmement ancienne, mais dont le duché ne date que du XIXe siècle, les Montesquieu, par exemple, du jour au lendemain, ce qui comptait pour M. de Charlus, c'était l'ancienneté du duché. La famille n'était rien. « Ils ne sont même pas ducs !» s'écriait-il. « C'est le titre de l'abbé de Montesquieu qui a indûment passé à un parent. Il n'y a même pas 80 ans. Le duc actuel, si duc il y a, est le troisième. Parlez-moi des gens comme les Uzès, les La Trémoille, les Luynes, qui sont les dixièmes, les quatorzièmes ducs, comme mon frère qui est 12e duc de Guermantes et 17e prince de Cordoue. Les Montesquieu descendent d'une ancienne famille, qu'est-ce que ça prouverait, même si c'était prouvé? Ils descendent tellement qu'ils sont dans le 14e dessous. » Était-il brouillé, au contraire, avec un gentilhomme possesseur d'un duché ancien, ayant les plus magnifiques alliances, apparenté aux familles souveraines, mais à qui ce grand éclat est venu très vite sans que la famille remonte très haut, un Luynes, par exemple, tout était changé. La famille seule comptait. Je vous demande un peu, Monsieur Alberti, qui ne se décrase que sous Louis XIII, qu'est-ce que ça peut nous fiche que des faveurs de cour leur aient permis d'entasser des duchés auxquels ils n'avaient aucun droit? De plus, chez Monsieur de Charlus, la chute suivait de près la faveur, à cause de cette disposition propre aux Guermantes d'exiger de la conversation, de l'amitié, ce qu'elle ne peut donner, plus la crainte symptomatique d'être l'objet de médisance. Et la chute était d'autant plus profonde que la faveur avait été plus grande. Or, personne n'en avait joui auprès du baron, d'une pareille à celle qu'il avait ostensiblement marquée à la comtesse Molé. Par quelle marque d'indifférence montra-t-elle, un beau jour, qu'elle en avait été indigne? La comtesse déclara toujours qu'elle n'avait jamais pu arriver à le découvrir. Toujours est-il que son nom seul excitait chez le baron les plus violentes colères, les philippiques les plus éloquentes, mais les plus terribles. Madame Verdurin, pour qui Madame Molé avait été très aimable et qui fondait, on va le voir, de grands espoirs sur elle, et s'était réjouie à l'avance de l'idée que la comtesse verrait chez elle les gens les plus nobles, comme la patronne, disait « de France et de Navarre », proposa tout de suite d'inviter Madame de Molé. « Ah, mon Dieu, tous les goûts sont dans la nature !» avait répondu Monsieur de Charlus. « Et si vous avez, madame, du goût pour causer avec Madame Pipelet, Madame Gibou et Madame Joseph Prudhomme, je ne demande pas mieux. Mais alors, que ce soit un soir où je ne serai pas là. Je vois, dès les premiers mots, que nous ne parlons pas la même langue, puisque je parlais de noms de l'aristocratie, et que vous me citez le plus obscur des noms de gens de robe, de petits roturiers retors, cancaniers, malfaisants, de petites dames qui se croient des protectrices des arts parce qu'elles reprennent, une octave en dessous, les manières de ma belle-sœur Guermantes, à la façon du jet qui croit imiter le paon. J'ajoute qu'il y aurait une espèce d'indécence à introduire dans une fête que je veux bien donner chez Madame Verdurin une personne que j'ai retranchée à bon escient de ma familiarité, une pécore sans naissance, sans loyauté et sans esprit, qui a la folie de croire qu'elle est capable de jouer les duchesses de Guermantes et les princesses de Guermantes, cumul qui en lui-même est une sottise, puisque la duchesse de Guermantes et la princesse de Guermantes, c'est juste le contraire. C'est comme une personne qui prétendrait être à la fois Reichenberg et Sarah Bernard. En tout cas, même si ce n'était pas contradictoire, ce serait profondément ridicule. Que je puisse, moi, sourire quelquefois des exagérations de l'une et m'attrister des limites de l'autre, c'est mon droit. Mais cette petite grenouille bourgeoise, voulant s'enfler pour égaler les deux grandes dames, qui, en tout cas, laissent toujours paraître l'incomparable distinction de la race, c'est, comme on dit, faire rire les poules. La Mollet, voilà un nom qu'il ne faut plus prononcer, ou bien je n'ai qu'à me retirer. Ajouta-t-il avec un sourire, sur le ton d'un médecin qui, voulant le bien de son malade, malgré ce malade lui-même, entend bien ne pas se laisser imposer la collaboration d'un homéopathe. D'autre part, certaines personnes, jugées négligeables par M. de Charlus, pouvaient en effet l'être pour lui et non pour Mme Verdurin. M. de Charlus, de haute naissance, pouvait se passer des gens les plus élégants, dont l'assemblée eût fait du salon de Mme Verdurin un des premiers de Paris. Or, celle-ci commençait à trouver qu'elle avait déjà bien des fois manqué le coche, sans compter l'énorme retard que l'erreur mondaine de l'affaire Dreyfus lui avait infligé, non sans lui rendre service pourtant. Je ne sais si j'ai dit combien la duchesse de Guermantes avait vu avec déplaisir des personnes de son monde qui, subordonnant tout à l'affaire, excluaient des femmes élégantes et en recevait qui ne l'étaient pas, pour cause de révisionnisme ou d'antirévisionnisme, puis avait été critiqué à son tour par ces mêmes dames, comme tièdes, mal pensantes et subordonnant aux étiquettes mondaines les intérêts de la patrie. Pourrais-je le demander au lecteur, comme à un ami à qui on ne se rappelle plus, après tant d'entretiens, si on a pensé ou trouvé l'occasion de le mettre au courant d'une certaine chose? Que je l'ai fait ou non, l'attitude, à ce moment-là, de la duchesse de Guermantes peut facilement être imaginée. Et même, si on se reporte ensuite à une période ultérieure, semblait, du point de vue mondain, parfaitement juste. Monsieur de Cambremer considérait l'affaire Dreyfus comme une machine étrangère destinée à détruire le service des renseignements, à briser la discipline, à affaiblir l'armée, à diviser les Français, à préparer l'invasion. La littérature étant, hors quelques fables de La Fontaine, étrangère au marquis, il laissait à sa femme le soin d'établir que la littérature, cruellement observatrice, en créant l'irrespect, avait procédé à un chambardement parallèle. M. Reynac et M. Hervieux sont de mèche, disait-elle. On n'accusera pas l'affaire Dreyfus d'avoir prémédité d'aussi noirs desseins à l'encontre du monde. Mais là, certainement, elle a brisé les cadres. Les mondains qui ne veulent pas laisser la politique s'introduire dans le monde sont aussi prévoyants que les militaires qui ne veulent pas laisser la politique pénétrer dans l'armée. Il en est du monde comme du goût sexuel, où l'on ne sait pas jusqu'à quelle perversion il peut arriver quand une fois on a laissé des raisons esthétiques dicter son choix. La raison qu'elles étaient nationalistes donna au faubourg Saint-Germain l'habitude de recevoir des dames d'une autre société. La raison disparut avec le nationalisme. l'habitude subsista. Madame Verdurin, à la faveur du dreyfusisme, avait attiré chez elle des écrivains de valeur qui, momentanément, ne lui furent d'aucun usage mondain parce qu'ils étaient dreyfusards. Mais les passions politiques sont comme les autres, elles ne durent pas. De nouvelles générations viennent qui ne les comprennent plus. La génération même qui les a éprouvées change, éprouve des passions politiques qui, n'étant pas exactement calquées sur les précédentes, lui font réhabiliter une partie des exclus, la cause de l'exclusivisme ayant changé. Les monarchistes ne se soucièrent plus, pendant l'affaire Dreyfus, que quelqu'un eût été républicain, voire radical, voire anticlérical, s'il était antisémite et nationaliste. Si jamais il devait survenir une guerre, le patriotisme prendrait une autre forme, et d'un écrivain chauvin, on ne s'occuperait même pas s'il avait été ou non dreyfusard. C'est ainsi que, à chaque crise politique, à chaque rénovation artistique, Madame Verdurin avait arraché, petit à petit, comme l'oiseau fait son nid, les bribes successives, provisoirement inutilisables, de ce qui serait un jour son salon. L'affaire Dreyfus avait passé, Anatole France lui restait. La force de Madame Verdurin, c'était l'amour sincère qu'elle avait de l'art, la peine qu'elle se donnait pour les fidèles, les merveilleux dîners qu'elle donnait pour eux seuls, sans qu'il y eût des gens du monde conviés. Chacun d'eux était traité chez elle comme Bergotte l'avait été chez Madame Swann. Quand un familier de cet ordre devenait, un beau jour, un homme illustre que le monde désire voir, sa présence chez une Madame Verdurin n'avait rien du côté factice, frelaté, d'une cuisine de banquet officiel ou de Saint-Charlemagne, faite par Potel et Chabot, mais tout au contraire d'un délicieux ordinaire qu'on eût trouvé aussi parfait un jour où il n'y aurait pas eu de monde. Chez Madame Verdurin, la troupe était parfaite. Entraînée, le répertoire de premier ordre. Il ne manquait que le public. Et depuis que le goût de celui-ci se détournait de l'art raisonnable et français d'un Bergotte et s'éprenait surtout de musiques exotiques, Madame Verdurin, sorte de correspondant attitré à Paris de tous les artistes étrangers, allait bientôt, à côté de la ravissante princesse Urbe-le-Tief, servir de vieille fée Carabosse, mais toute puissante, aux danseurs russes. Cette charmante invasion, contre les séductions de laquelle ne protestèrent que les critiques dénuées de goût, amena à Paris, on le sait, une fièvre de curiosité moins âpre, plus purement esthétique, mais peut-être aussi vive que l'affaire Dreyfus. Là encore, Madame Verdurin, mais pour un tout autre résultat mondain, allait être au premier rang. Comme on l'avait vu à côté de Madame Zola, tout au pied du tribunal, aux séances de la cour d'assises, quand l'humanité nouvelle, acclamatrice des ballets russes, se pressa à l'opéra, ornée d'aigrettes inconnues, toujours on vit dans une première loge Madame Verdurin à côté de la princesse Urbe-le-Tief. Et comme, après les émotions du palais de justice, on avait été le soir chez Madame Verdurin, voir de près Picard ou Laborie, et surtout apprendre les dernières nouvelles, savoir ce qu'on pouvait espérer de Zurlinden, de Loubet, du colonel Jouost, du règlement. De même, peu disposée à aller se coucher après l'enthousiasme déchaîné par Scheherazade ou les danses du prince Igor, on allait chez Madame Verdurin, où, présidée par la princesse de Urbe-le-Tief et par la patronne, des soupers exquis réunissaient, chaque soir, les danseurs qui n'avaient pas dîné pour être plus bondissants, leur directeur, leur décorateur, les grands compositeurs Igor Stravinsky et Richard Strauss, petit noyau immuable, autour duquel, comme au souper de Monsieur et Madame Helvétius, les plus grandes dames de Paris et les altesses étrangères ne dédaignèrent pas de se mêler. Même ceux des gens du monde qui faisaient profession d'avoir du goût et faisait entre les balais russes des distinctions oiseuses, trouvant la mise en scène des sylphides quelque chose de plus fin que celle de Scheherazade, qu'il n'était pas loin de faire relever de l'art nègre, était enchanté de voir de près les grands rénovateurs du goût du théâtre, qui, dans un art peut-être un peu plus factice que la peinture, firent une révolution aussi profonde que l'impressionnisme.